Les Racines du Ciel, une émission de Lily Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui Laurent Macchiati à la prise de son. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de notre série Grand Témoin, en compagnie de Kiran Vyas, qui a la gentillesse de nous recevoir dans le centre ayurvédique Tapovan en Normandie, centre de soins, de ressourcement, de méditation, de thérapie à la fois du corps et de l'âme, mais aussi de formation à la médecine ayurvédique. Merci Kiran Vyas de nous recevoir.
Bonjour Lily, merci d'être venue. Et surtout avec ce magnifique soleil, la Normandie change. La Normandie devient un paradis.
Mais on n'a jamais douté qu'il y eut du soleil, en tout cas de temps en temps, et surtout quand on est en haute compagnie en Normandie. Vous êtes Kiran Vyas, directeur et fondateur des centres Tapovan, puisqu'il y en a aussi un à Paris désormais, et l'un des pionniers de l'Ayurveda en France. Vous êtes aussi conférencier, auteur de nombreux ouvrages autour de l'Ayurveda justement, mais aussi du mode de vie, des massages reliés à l'Ayurveda. Je citerai par exemple « Recettes végétariennes de l'Inde » selon l'Ayurveda, le yoga des yeux, massage pour bébé, « Guérir par la médecine ayurvédique ». Enfin, ils sont très nombreux, vos livres, donc je ne vais pas en faire ici la liste. En tout cas, ça tourne toujours autour de ces idées-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ces livres que j'ai à la maison et que j'utilise pour certains au moins une fois par semaine. Je pense en particulier à votre livre sur le yoga et aux délicieuses recettes de l'Ayurveda. Alors, comme l'Ayurveda est de fait indissociable justement de la pratique de yoga, vous avez aussi à la fois beaucoup pratiqué, beaucoup écrit, beaucoup réfléchi sur cette discipline qui, elle aussi, comme l'Ayurveda, est à la fois corporelle et spirituelle. Mais nous aurons l'occasion d'en parler dans cette émission.
Absolument, avec grande joie.
Alors, j'ai eu envie de venir vous rendre visite dans ce centre qui est vraiment comme un petit paradis, en particulier sous le soleil, comme vous l'avez dit, pour que vous nous parliez justement de cette médecine plusieurs fois millénaire qui ne dissocie pas le corps, la psyché et l'âme. Et c'est peut-être là aussi un de ses grands intérêts pour notre époque, et qui est donc à bien des égards une médecine du sens, d'une certaine façon.
Oui.
Et une invitation à apprendre à se connaître, à se soigner soi-même, oui, en prenant en compte sa nature et ses besoins profonds. Mais vous allez aussi, j'espère, nous parler un peu de vous-même, de votre parcours, de ce qui vous a amené à créer si loin de votre terre natale un centre de médecine traditionnelle indienne. Et donc, peut-être on pourrait commencer par là, Kiran Vyas,
si vous voulez, oui,
par votre enfance, par la transmission que vous avez reçue et ce qui vous constitue, au fond.
Exactement. Voilà, moi je suis né dans l'état de Gujarat, en Inde. C'est l'endroit où travaillait Gandhi, la grande âme de l'Inde. D'ailleurs, à l'époque, quand je suis né, mon père travaillait avec Gandhi. Et c'est dans cette atmosphère de Gandhi, cette atmosphère de l'indépendance de l'Inde que je suis né. J'ai vraiment imbibé de cette atmosphère de recherche de la liberté. La liberté pas seulement par rapport à, comment dirais-je, pouvoir politique des Anglais, mais Gandhi lui-même cherchait une certaine vérité. Et d'ailleurs, un de ses livres qui s'appelle « Mes expériences de la vérité », comment lui, il voyait la vie. Et c'est à ce moment-là, juste avant ma naissance, mon père, qui était en prison, prisonnier politique, pour demande de l'indépendance de l'Inde, mon père avait lu des écrits de Sri Aurobindo, de Vivekananda, les grands spiritualistes de l'Inde. Et c'est pourquoi, dès la petite enfance, moi j'ai eu cette atmosphère d'un côté d'une grande recherche de la spiritualité et d'autre part le concept même de liberté qui m'a toujours touché. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle je me trouve plus en France où les trois mots liberté, égalité et fraternité qui règnent. Et ça m'avait frappé dès l'enfance. Alors, dans ma petite enfance, c'est vrai aussi que Gandhi cherchait une certaine simplicité. Tout d'abord, il cherchait l'indépendance de l'Inde par la non-violence. Et la non-violence, pas seulement au niveau de tuer ou ne pas tuer, mais aussi la non-violence verbale, dans la parole. la non-violence dans l'acte, certainement, mais même la non-violence dans la pensée. Parce qu'il disait que si on arrive à développer cette non-violence dans la pensée, on pourrait rayonner cette non-violence et on pourrait avoir la vérité par cette sorte de non-violence. Il y a des racines de cette non-violence dans le bouddhisme, une des très grandes anciennes religions de Bouddha. Aussi, il y a une autre religion qui s'appelle jainisme, dont le 25e grand maître qui s'appelle Mahavira, il était contemporain de Bouddha. Mais sinon, c'est une religion qui existe presque depuis l'époque de Veda, dans le sens que 5000 ou 10 000 ans avant notre ère. Et la non-violence était une des parties principales. Mais pour moi, le côté corps, le côté santé, le côté bien-être, le côté l'épanouissement de l'être, était aussi inclus à cette époque dans l'atmosphère. Parce que mon père, qui a été donné en travail par Gandhi de la pédagogie, de l'éducation, et mon père avait développé un système qui s'appelait le système de Gandhi, l'éducation de base, avec trois H. Premier H en anglais, head, pour dire la tête. Deuxième H, heart, pour dire le cœur. Et troisième H, hands, pour dire les mains. C'est-à-dire les mains devaient travailler. Il faut un travail manuel, travail de filage du coton, ou travail de tissage, ou travail dans les champs, ou la menuiserie. Et comme ça, dès la petite enfance, on sait un métier, on pourrait gagner sa vie. Même tout petit, par exemple, moi j'ai fait le filage du coton, même cirer les chaussures, on gagnait 2 paisas, ça veut dire 2 centimes, par une paire de chaussures. Comme
oui, alors c'est, à mon avis, c'est très important là ce que vous dites, parce que c'est vrai que parfois on en a fait presque une caricature de ce Gandhi qui voulait absolument, qui avait toujours cette idée que toute l'Inde devrait se mettre à filer le coton. Et en fait, vous nous expliquez qu'évidemment ce n'est pas une caricature d'arriération, mais bien l'idée que les mains sont une partie noble et qu'il faut l'occuper à quelque chose d'utile. En particulier, le coton, en plus, le tissage, a une valeur aussi symbolique, je crois, en Inde.
Tout à fait. C'est plutôt une certaine valeur symbolique qu'il a voulu inciter. C'est exactement comme le mouvement du sel. Oui. Par exemple, en réalité, au bord de la mer, là-bas, vers la mer d'Arabie, où on se trouvait, sur les plages, on voit les endroits où on pourrait juste piquer un petit peu de sel, et c'est normal. Mais comme l'État britannique a mis une certaine sorte d'impôt, presque rien comme impôt, mais comme il y a une imposition sur le sel, alors Gandhi a pris ça comme une idée que faisons la marche du sel. Il aurait pu faire tout de suite aller au bord de la mer, mais il a choisi de Ahmedabad, de son ashram à Sabarmati, marcher 400 km. Et pendant ces 400 km, les gens se sont réunis autour de lui. Et on a demandé, mais pourquoi ce mouvement de sel? C'est pour l'indépendance de l'Inde. Personne ne comprenait, même les Britanniques se grattaient la tête. Mais qu'est-ce que le mouvement de sel a à faire avec l'indépendance de l'Inde? Mais c'est aussi l'énigme même que Gandhi aimait créer. Et le travail des mains, c'était précisément ça. Mais beaucoup plus tard que j'ai compris que les mains, c'est une partie noble de notre être humain. Et quand on travaille avec les mains, il y a moins de pensées négatives dans la tête, il y a moins des idées négatives qu'on a envie de faire, parce que les mains, le travail, ça nous occupe dans une autre façon. Et aussi l'amour de la terre qui se développe grâce au jardinage, grâce au travail avec les mains.
Alors, puisque nous en parlons, je n'ai pas oublié, nous n'avons parlé encore que de hand et des mains, je n'ai pas oublié les deux autres dont nous allons parler. Mais puisque vous parlez de jardinage et que nous sommes dans ce magnifique jardin que vous avez créé, alors j'aimerais que vous nous parliez de ce qui vous a amené à cela. C'est-à-dire, ce jardin, c'est il y a 25 ans, quand vous êtes installé ici, il n'y avait rien. Vous avez tout conçu, Vous avez même travaillé de vos mains, évidemment. Absolument, pas tout seul, oui, c'est un travail collectif.
Toute une équipe.
Voilà. Mais maintenant, c'est vraiment une sorte de paradis sur Terre. Alors tout à l'heure, on ira aussi dans le jardin mandala, oui, mais déjà, absolument. Rien que ce parc qui nous accueille, vous l'avez conçu justement pour qu'on ait cette sensation d'être lié à la Terre, à la nature, à la beauté aussi, Kiran Vyas.
Exactement. Mais comme votre émission ou paroles de Jardin d'Éden ou Jardin d'ici et d'ailleurs, le jardin joue un rôle important. Il y a le jardin secret de l'être humain où simplement des fleurs ont une signification, ont un message pour l'humanité. Et pour moi, le jardin, c'est tout d'abord la prise de terre. Il y a 5 éléments. Dans l'Ayurveda ou dans la philosophie indienne ou dans le yoga, où la terre, c'est le premier des éléments qui nous donne l'enracinement, qui nous donne une connaissance de terre à terre, qui nous donne une connaissance de sens pratique, qui nous donne aussi la stabilité. Parce que si on n'a pas de prise de terre, si on n'est que dans le mental et tout cela, nos fusibles sautent. Alors pour moi, c'est important cette prise de terre. Et le jardin nous donne tout d'abord cette prise de terre. Deuxièmement, le jardin, quand je suis venu ici en Normandie, j'étais vraiment séduit par la beauté des grands arbres, des talus, aussi les falaises et tout cela. Mais à la campagne, je n'avais pas entendu des chansons d'oiseaux, des chants d'oiseaux. Et ça m'avait choqué. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de chants d'oiseaux? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plus de sortes de monoculture. Il y avait cette imprégnation américaine, entre guillemets, de cette envie de faire seulement une seule chose qui doit pousser pendant des kilomètres et des kilomètres. Et on avait même coupé les arbres, on avait coupé les talus, les mares et tout ça. Alors, mes premières envies étaient de recréer cette atmosphère anciennement normande et qui était utile, selon moi, pour la terre. Bien sûr, entre guillemets, je dois vous dire que j'ai aussi eu visite et l'amitié de grands musiciens, Yehudi Menuhin, qui m'a pas seulement initié dans le domaine de sons ou de vibrations occultes, mais aussi il m'a dit que, mais Kiran, avec votre amour de jardin, vous devez rencontrer notre ami Pierre Rabhi. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec Pierre Rabhi. Et c'est vrai que depuis, c'est le grand amour entre Pierre et moi, et l'amour de la terre, l'amour de la bio, l'amour de l'organique. Et c'est comme ça qu'on a commencé aussi tout un travail de ce que j'appelle Jardin Planétaire, ou des journées internationales de l'environnement, de développement durable.
Qui auront lieu cette année?
Qui auront lieu cette année, le mois de juin, du 9, 10, 11 et 12.
D'accord.
C'est 4 jours. Et il y aura une grande rencontre de tous ceux qui aiment la terre, tous ceux qui aiment l'environnement. Alors pour moi, pour revenir au jardin, il y a des fleurs, il y a des couleurs. Et ces couleurs travaillent, selon moi, sur les 7 chakras. C'est-à-dire chaque couleur a des effets.
Alors expliquez-nous ce que sont les chakras, c'est le moment ou jamais.
C'est le moment ou jamais, si vous voulez. Mais c'est le moment aussi de vous dire qu'aujourd'hui, les mots comme chakra, comme le yoga, sont presque mondialement connus.
Bien sûr. Mais juste rapidement, pour nous rappeler.
Juste rapidement. Voilà. Alors, les chakras sont des centres énergétiques constitués d'une certaine sorte de l'atmosphère ou certaines sortes d'énergie. Pour moi, les chakras sont dans un corps éthérique ou dans un corps occulte. Ce n'est pas nécessairement dans le corps physique. Quoique il y a une relation avec les parties du chakra qui se trouvent dans le corps, une correspondance qui est liée avec les glandes, avec des réactions au niveau du corps. Alors, il y a 7 chakras, dont par exemple le chakra du cœur qui est pour l'amour, pour l'harmonie et tout ça. Même si on coupe le cœur, on ne verra pas ni amour sortir de là-bas. Et pourtant, tous les poètes, tous les écrivains, tous les romanciers, tous les musiciens, tous les artistes ont toujours parlé du cœur, quelle que soit la civilisation. Et selon moi, C'est un des chakras les plus importants, où qui émane l'énergie de l'amour. Et c'est lié avec la couleur verte. Et en Normandie, on a ces prairies vertes, on a cette atmosphère de l'énergie du cœur qui est vraiment vivante. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle les impressionnistes sont venus ici, qui ont peint, dont il y a la couleur verte, mais il y a d'autres couleurs, et aussi créer cette sorte d'impression. Si Monet était ici ou Delacroix, il y a une certaine raison pour cela. Et aussi, il y a des écrivains qui sont passés, qui ont décrit. Alors, le jardin et planter les arbres, pour moi, c'est un premier des métiers de chaque être humain. Et on a commencé à Tapovoan, après avoir acheté en 1990. On a planté plus que 6000 arbres et arbustes. On a planté beaucoup de parfums, beaucoup de plantes aromatiques, beaucoup de sortes de fleurs. Et
on le voit, c'est-à-dire il y a vraiment toutes les couleurs, en
effet.
Il y a le jaune, le rouge, le violet, le rose. Enfin, on voit bien que vous avez réfléchi à une sorte de chromothérapie. Je ne sais pas comment on peut appeler ça.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est une sorte de chromothérapie parce qu'il y a des effets de ces vibrations, des couleurs sur notre organisme, sur notre corps. Il y a aussi les effets des chants d'oiseaux. J'avais enregistré un petit peu ces chants d'oiseaux, surtout la soirée tombante et tout le matin. Et un ami qui m'a dit, qui était un grand connaisseur, qu'il y a 23 variétés d'oiseaux. Il a simplement, par le son, il a pu déceler, il a pu comprendre. Et il m'a dit, ah, ça c'est extraordinaire, que tant d'oiseaux dans un petit endroit comme ça.
Oui, et c'est vrai que quand on entre ici, là c'est la première, c'est la deuxième fois que je viens dans ce centre, on a vraiment, littéralement, quand on passe le seuil de ce parc, une sensation de bien-être. Alors on peut pas là vous expliquer pourquoi, mais je vois bien que ça a été pensé pour déjà nous disposer à lâcher quelque chose pour recevoir autre chose. Est-ce que vous l'avez vraiment conçu comme ça, Kiranias?
Peut-être pas aussi consciemment. Mais par mon expérience en Inde et par mon expérience que j'ai toujours aimé, adoré visiter des endroits calmes, et surtout en Inde, quand on dit que si vous voulez méditer, il faut aller dans les Himalayas. Je suis allé plusieurs fois dans les Himalayas. Alors, ce que je cherchais, par exemple, dans les Himalayas, il y a une certaine vallée de fleurs, Valley of Flowers. Et dans cette Valley of Flowers, il y a plein de rhododendrons. Et quand j'ai vu que ça pourrait pousser ici, en Normandie aussi, alors je me suis précipité pour construire ce parc avec plein d'arbres de rhododendrons. Et c'est vrai que ça crée une atmosphère quasiment céleste avec toutes ces fleurs magnifiques de rhododendrons, des azalées, puis avec ça, il y a toujours des fleurs jaunes et des blanches qui reviennent tout d'abord avec la première partie du printemps. Puis après, il y a des couleurs jaunes, des couleurs bleues. C'est-à-dire, même la nature se réveille doucement avec des différentes couleurs.
Oui, donc vous avez apporté... D'ailleurs, Tapovan, c'est aussi un nom d'une région très fleurie dont vous m'aviez montré certaines photos absolument magnifiques. Donc vous avez voulu transposer ici et le rendre accessible d'ailleurs aux Français.
Voilà. Parce que Tapovoan signifie une forêt paisible où les sages indiens pratiquaient le yoga. Alors il y avait une connotation d'un paysage calme et paisible où les oiseaux qui chantent, où il y a une rivière qui coule. Il y a une beauté extérieure, il y a un silence extérieur qui doit nous amener un silence intérieur, une joie profonde pour pouvoir pratiquer la méditation, les paroles de la sagesse.
Alors peut-être que du coup c'est l'occasion d'arriver au deuxième H que vous aviez évoqué, qui est le H du cœur. Vous en avez d'ailleurs un peu parlé, mais selon ce que vous avez reçu de votre père, quelle était au fond l'importance de ce centre et surtout comment éduquer son cœur, parce que peut-être qu'en Occident, on n'a pas trop besoin qu'on nous apprenne comment éduquer sa tête, encore que. Mais éduquer son cœur, c'est une affaire plus subtile, peut-être.
Éduquer son cœur, c'est très subtil, c'est passionnant, mais en même temps, c'est la chose la plus négligée. On considère que l'amour avec un grand A pourrait se développer. Certainement, cette énergie est fondamentalement là dans chaque être humain. Mais pour que cette énergie de l'amour se développe, il faut qu'on arrive à créer une harmonie. L'harmonie de sa propre pensée, sa propre parole, ses propres actes. C'est pourquoi il y a un verset en sanskrit qui dit « Manasa vacha karmana ». Manasa veut dire mentalement dans la pensée, vacha dans la parole et dans l'acte. Si dans ces trois paramètres, on arrive à créer une harmonie et on arrive à créer une certaine sorte d'idéologie, une sorte d'un idéal, certainement, on arrive à aller vers le cœur. Et le cœur s'ouvre avec la beauté, avec les vibrations sonores les plus agréables, avec une certaine harmonie. Alors, créer cette harmonie, c'est aussi approcher le cœur. L'énergie de l'amour n'est pas absente, comme pensent les gens. Au contraire, c'est omniprésent. Même une fleur qui fleurit, elle ne pense pas pour qui je fleuris. Il n'y a pas l'ego derrière. Au contraire, il y a cette idée de don de soi. Et ça, c'est la première chose de l'amour, c'est don de soi. Comme des fleurs, comme la nature. Un arbre ne pense pas que je ne dois donner que 50 fruits ou 35 fruits parce qu'au marché, ça va être ça. Un arbre donne de tout son cœur les fruits qu'il a envie de donner. La terre donne avec une très grande générosité. Alors, dans cette énergie de l'amour, il y a la générosité, il y a le don de soi, il n'y a pas cette sorte de calcul. Et la vraie énergie de l'amour, c'est vraiment une grâce divine qui vient d'en haut. Certainement, c'est une sorte d'énergie où il y a une grande polarité, un magnétisme, il y a une grande attraction, il y a aussi une certaine répulsion. C'est-à-dire, scientifiquement aussi, on pourrait voir que c'est une énergie bouleversante. Et c'est une énergie extraordinaire parce que c'est aussi une énergie de la création. Sans amour, il n'y a aucune créativité, aucune conception. Alors, tout ça mis ensemble, on va dire que H et l'éducation de cette H, ça sera vraiment pour un être humain, de le faire un être humain. Sinon, comme dit en verset sanskrit, que nous sommes un peu comme des animaux. On est né, on mange, on reproduit. Mais quelle est la différence entre un véritable homme et un animal? La vraie différence, c'est cette faculté d'aimer, cette faculté de la créativité, cette faculté d'écouter la musique, cette faculté d'avoir l'art, avoir la poésie. Et quand on arrive à vivre la poésie dans la vie, c'est ça l'énergie de l'amour. Maya tori kemne jabo baya o mon pabon naya maya tori kemne jabo baya dine dine mayar todi dine dine manob todi galu de dubiya dine dine manob todi galu de dubiya mon pabon naya Maya tori kemne jabo baya are yo mon pabon naya maya tori kemne jabo baya mayar tori mayae dhara roshete pura tori rupete ghira Roshik dada par hoy tada roshir nodi diya mon pabon naya maya tori kemne jabo baya
naya are jo mun pavun naya maja sori kemne jabo baya
France Culture, les racines du ciel, les lions verts.
Alors justement, ces trois pôles, au fond, qui sont les trois pôles d'éducation que vous avez reçus de votre père, que votre père avait lui-même déjà développé, vous les avez retrouvés, si j'ai bien compris, dans votre parcours personnel, dans cette médecine traditionnelle qu'on appelle l'Ayurveda, et vous avez essayé de l'appliquer, au fond, de retrouver ces trois pôles, mais sous la forme de cette médecine ayurvédique, alors que vous avez étudié en Inde, que vous avez reçu aussi de votre père, ou comment ça se passe? Est-ce qu'on va à l'université pour étudier la médecine ayurvédique, Kiran Vyas?
Bravo pour cette question-là. C'est vrai, la médecine ayurvédique, le jour d'aujourd'hui en Inde, est devenue une matière qu'on apprend après le bac, au plein temps, pendant 5 ans et demi, 6 ans, et puis 2 ans comme interne. C'est une médecine classique. Mais c'est une médecine ayurvédique, c'est-à-dire on s'occupe selon les lois de l'Ayurveda. Autrefois, ça s'apprenait auprès de maîtres ou disciples, c'est-à-dire le disciple va aller et vivre autour du maître, apprendre des différentes plantes, apprendre les différentes sortes de recettes, apprendre aussi les différentes techniques de bien-être. Ça prenait aussi dizaines d'années, douzaines d'années. Pour mon parcours personnel, c'est vrai qu'après avoir vécu au départ dans l'ashram de Gandhi avec mon père, où il y avait plein de médecins ayurvédiques autour de nous, où Gandhi, comme il avait demandé à mon père le travail de l'éducation, il avait demandé à ces médecins ayurvédiques de créer la médecine simple pour toute l'humanité et surtout pour l'Inde. Alors bien sûr, eux, ils discutaient pendant mon enfance, j'ai écouté tout cela.
Et ça quelle chance, hein, voilà. On aurait aimé être une petite souris et y être aussi.
Vous avez tout à fait raison.
Vraiment, chaque fois quand je pense à ça, oui.
Voilà, chaque fois quand je pense à ça, c'est vrai. Mais après, j'ai eu aussi la grande chance de vivre à Pondichéry, au sein de l'ashram de Sri Aurobindo, où la mère qui dirigeait, qui nous enseignait, et il y a aussi cette sorte d'équilibre et d'harmonie entre la culture occidentale et orientale. Et en même temps, la recherche de la perfection, perfection dans la musique, perfection dans l'art et tout ça. Et surtout, si j'ai appris cette éducation de cœur qu'on appelait vital education, ou l'éducation de vital, l'énergie vitale, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que cette énergie qui se trouve dans chaque être humain, et quand cette énergie du vital participe, tout devient beau. Et quand cette énergie est plus bas, on se déprime, on n'est pas bien. Et surtout dans la médecine ayurvédique, j'ai pu utiliser ça énormément, parce que chaque être humain, selon l'Ayurveda, n'est pas qu'un seul corps. La personne est un cœur, des sentiments, des émotions. Et si ces sentiments et les émotions sont fortes, sont forts assez, à ce moment-là, la personne est forte. Et la personne pourrait faire face aux maladies, faire face à d'autres problèmes de santé et puis avancer dans sa vie.
Et donc c'était aussi quelque chose. Donc vous avez aussi pratiqué, fréquenté l'ashram d'Amma, et là aussi il y avait une place importante qui était donnée à cette médecine ayurvédique, donc traditionnelle indienne, plusieurs fois millénaire si je ne me trompe.
Absolument. C'est l'ashram de la mère qui est différente de l'ashram d'Amma.
Ah, pardon, excusez-moi.
Mais ce n'est pas grave, mais c'est aussi Amma, quelque part. C'est le concept mère, la mère divine, la mère nourricière de toute la terre ou toute l'humanité. Le concept est même. Et d'ailleurs, dans toutes les civilisations, on va trouver ce concept féminin, la mère, la femme, la courtisane, l'amoureuse. Mais c'est la forme de l'énergie féminine qui est l'énergie nourricière, qui est aussi pour moi Adi Shakti, c'est-à-dire une énergie qui existait même avant l'existence. Et en réalité, si on a envie de vivre et survivre, il faut qu'on s'attache à cette énergie de la mère. Le travail de la médecine ayurvédique, Ayuhu signifie la vie, ou élan vital, et Veda signifie la connaissance. Alors l'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie. Et chaque fois quand on est dans un endroit, dans un ashram, où on vivait l'Ayurveda, où on vivait cet élan vital pour faire un progrès intérieur, mais aussi avoir une santé extérieure, c'est un grand travail qu'on faisait à l'ashram. Et là, on divisait, dans le langage moderne, une éducation où on entretient du corps physique, une éducation où on entretient du corps vital, veut dire des émotions, des sentiments, des énergies subtiles qui circulent dans le corps, et une éducation où une santé du manas ou mental, veut dire l'esprit, et puis aussi une éducation ou une pratique de psychique ou psyché et spirituelle. Mmh. Parce que notre fort intérieur a une très grande importance. Et que ça soit dans l'ashram, que ça soit dans la vie individuelle d'un être humain, que ça soit même où qu'on soit, moi j'ai toujours trouvé qu'on était toujours pris par cette sorte d'énergie de l'être humain dans son intégralité. Et chaque fois quand on faisait un progrès intégralement, cela nous aidait, quel que soit le niveau, si on a même mal quelque part physiquement, mais si on a un calme par la méditation, cela va nous aider.
Oui, alors c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'au-delà d'être une médecine, avec ses techniques spécifiques, en particulier les massages que vous enseignez d'ailleurs ici, je crois qu'il y a des formations à ces techniques en fait, de la médecine ayurvédique, mais que c'est une médecine qui intègre aussi effectivement un travail personnel, et vous avez commencé cette émission en parlant de liberté. J'ai quand même l'impression aussi que c'est une façon d'inviter chacun à se prendre en main, à la fois spirituellement et physiquement, comme si on devait devenir chacun. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue en faisant j'en ai fait que quelques-unes, mais enfin, quand j'ai été initiée un peu à ces cures ayurvédiques, ce que j'ai senti très fort, c'est que c'est vraiment une invitation à devenir soi-même médecin de soi-même, à la fois physiquement, psychiquement et spirituellement. Est-ce que j'ai bien compris, Kiranyas, quel était le principe au fondement de cette médecine?
Tout à fait, non, vous avez pas seulement bien compris, mais vous avez vraiment touché l'essence même de la chose. Parce que qui pourrait nous connaître mieux que soi-même? On est vraiment les vrais connaisseurs de soi-même. Et surtout avec le progrès moderne, j'ai même discuté avec des grands professeurs de médecine et qui m'a vraiment fait sourire à un moment donné, parce que ces professeurs disaient que même dans le domaine de l'allopathie, où la science a tellement avancé, mais le jour d'aujourd'hui, un patient, par Internet et par d'autres choses, connaissent vraiment chaque détail de sa propre maladie, même aussi bien que le professeur lui-même pourrait connaître. Mmh. Et aussi des solutions qui existent pour la dite maladie, c'est-à-dire aujourd'hui l'être humain est très ouvert à plein de choses. Et c'était aussi une recherche de l'Ayurveda dès le départ, que l'être humain doit être ouvert spirituellement, physiquement, émotionnellement. Pour moi, dans l'Ayurveda, ce qui me touche, c'est qu'on pratique les massages, on pratique la méditation, on pratique la diététique, on pratique aussi les postures de yoga. Tout cela nous aide pour avancer. Il y a des massages où, par exemple, un filet d'huile qui coule sur le front doucement de gauche à droite et de droite à gauche, ça agit sur le cerveau gauche et le cerveau droit. Ça agit aussi sur l'hypophyse. Comme ça, il y a un travail de profondeur qui se fait. Ça amène un très grand calme à l'être humain. Et le contraire, par exemple, le massage des plantes des pieds avec un bol en dessous, cela équilibre pour nous l'élément feu. Et l'élément feu est lié avec l'énergie de, j'appellerais, de l'enthousiasme. C'est-à-dire on pourrait réguler nos énergies de l'enthousiasme, la déprime, etc. C'est-à-dire si cela nous donne un grand enthousiasme, certainement notre vie sera beaucoup plus heureuse. D'autre part, quand le feu est régularisé, quand bien réglé, le sommeil est meilleur. Comme ça, on a un meilleur sommeil aussi. C'est-à-dire, simplement par un petit massage des plantes des pieds avec un bol qui s'appelle Kansu, on pourrait avoir ces effets. Puis il y a des massages du corps avec du riz au lait qui nous donne une souplesse de la peau, qui nous donne aussi des articulations sans douleur et beaucoup plus d'agilité. Comme ça, différents massages vont agir d'une façon différente sur chaque être humain. Mais le concept de ces massages ou de l'Ayurveda, fondamentalement, est de prendre soin de soi-même, se connaître soi-même, et essayer de réfléchir, essayer d'aller vers sa profondeur et comprendre sa nature profonde ainsi que la nature profonde qui est autour de nous.
Oui, et puis il y a une relation aussi, si j'ai bien compris, avec... il y a une interaction, je dirais, entre le terrestre et le céleste, on va dire ça pour aller un peu vite, avec cet élément d'azur, en fait, d'éther, qui est si important, auquel il faut se connecter. Et je trouve aussi que pour notre époque, là aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire, en réalité, on ne peut pas guérir le corps si on ne passe pas presque par l'âme de la maladie, comme s'il y avait cette interaction permanente et que l'Ayurveda, et puis on en reparlera peut-être juste après, et aussi le yoga d'ailleurs, permettent de retrouver cette interaction qui est aussi la condition pour que l'énergie circule. Kiranyas.
L'énergie doit circuler entre le corps et l'esprit. L'énergie doit circuler aussi entre ce qu'on pourrait appeler sa vraie profondeur, son vrai fort intérieur, que nous pouvons appeler l'âme. Et si on a la connaissance de notre âme, bien sûr, le chemin sera beaucoup plus facile.
Et alors, quel est le rôle que joue le yoga dans ce travail de la médecine ayurvédique?
Le mot yoga signifie l'union. Le mot yoga signifie l'union du soi ou du moi avec le vrai au-delà ou l'absolu. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le moi ou le soi, et de l'autre côté, il y a l'absolu. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est-à-dire on ne connaît ni l'un ni l'autre. On ne se connaît pas. Qui suis-je? La question, quand on se pose, on est dans une certaine sorte d'état de confusion. Alors, on ne se connaît pas. Qui suis-je? Pourquoi suis-je? Pourquoi suis-je né? Toutes ces questions restent avec un grand point d'interrogation. Et d'autre part, l'autre chose aussi, quelle est la vraie raison de cet univers? C'est cette sorte de galaxie, cette sorte de l'immensité qui est l'absolu. Est-ce qu'il y a, c'est simplement un hasard, ou est-ce qu'il y a une raison, ou est-ce qu'il y a quelque chose? C'est-à-dire le ciel qui est peint à chaque seconde dans la soirée, un grand tableau comme ça, quel artiste doit utiliser son énergie? Alors cet absolu d'un côté et cet individu, les deux sont des énigmes, et le mot yoga s'est fait pour les unir, les connaître.
Et elle a d'ailleurs différentes... Je crois que le yoga, il y a plusieurs dizaines de formes différentes de yoga. On ne pourrait pas dire le yoga c'est ceci ou c'est cela. Effectivement, il y a un principe, et puis après ça se décline sous des formes très variées. Mais ici, dans ce centre, quel type de yoga proposez-vous en fait pour la pratique?
Alors, vous avez tout à fait raison en disant qu'il y a beaucoup de sortes de yoga. Moi, je dirais chaque être doit avoir son propre yoga. C'est-à-dire chaque être humain, tout ce qui lui fait avancer, faire du progrès, c'est le yoga. Pour moi, chaque acte ou chaque geste, quand on fait avec conscience et avec la respiration, ça devient yoga. Et c'est quelque chose de passionnant dans le sens que la respiration est intimement liée avec la pensée, avec les sentiments, avec l'élément vie. Et les postures de yoga sont liées avec les différentes glandes, les différents organes internes de notre corps. Alors ce travail physique des organes, des muscles, des parties du corps, ce travail de la respiration nous amène vers un travail subtil de circulation des énergies qu'on appelle des nadis. Il y en a 72 000 et plus. Et cette circulation de différentes sortes d'énergies qui nous rend plus en plus souples, plus en plus heureux.
Et vous accordez aussi une grande importance à la méditation. Là aussi, c'est une méditation de type classique, en fait, indienne, que vous proposez dans vos centres, et qui font partie d'ailleurs de la thérapie générale, en fait.
Oui, le mot méditation, au départ, ça nous faisait peur. C'est quoi cette pratique de la méditation ? La méditation est une pratique où, petit à petit, on va commencer à se connaître intérieurement soi-même. Parce que quand nos cinq sens qui nous amènent vers l'extérieur, quand ces cinq sens se taisent ou ces cinq sens se tournent vers l'intérieur de soi, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, il y a d'autres dimensions qui se mettent à notre disposition, à notre conscience. Et c'est cela, la méditation. Et la chose de base, tout d'abord, c'est le calme intérieur, c'est la paix intérieure.
Alors, vous avez aussi créé dans ce centre Tapovan, Kiran Vyas, un jardin mandala. Et si vous le voulez bien, je propose que vous nous y emmeniez,
oui.
Que nous allions ensemble. Et pendant que nous marcherons, vous nous expliquerez peut-être quel est le principe de ce jardin mandala et comment vous l'avez conçu.
Avec très grande joie. Le jardin mandala, c'est un jardin en forme de mandala. Ici, on a un petit cercle au centre qui signifie l'unité, qui signifie aussi l'origine de tout, qui est entouré de quatre pétales ou quatre autres parties, comme une fleur, comme un soleil, et il y a 12 autres pétales autour de cela. Ça s'appelle aussi le symbole de la mer. Et en Inde, il y a quatre aspect de cette énergie de la mer. Il y a l'aspect Saraswati ou Mahasaraswati, c'est-à-dire c'est la déesse de la connaissance, c'est la déesse de l'art, de la musique, c'est-à-dire c'est cette énergie de la créativité, cette énergie de l'harmonie, cette énergie de la connaissance. Puis après, il y a l'énergie de la richesse, Mahalakshmi. Après, il y a l'énergie de Mahakali, qui est une certaine sorte d'énergie de destruction, mais pour une énergie de renouvellement. Et puis, il y a une énergie intégrante, Maheshwari, qui est une énergie de la mère divine. Et ça, c'est entouré de 12 pétales, on pourrait dire comme le courage, la générosité, la bonté, la sincérité, l'humilité, toutes sortes de vertus, la gratitude. Alors bon, ça c'est dans la tête. Mais dans la pratique, on a simplement dessiné en mandala, une forme géométrique, et on a planté différentes plantes et des arbres. Qu'est-ce qu'on a observé? Sans ajouter des engrais chimiques ou d'autres choses, les plantes s'épanouissaient. Deuxièmement, c'est simplement par la forme même de mandala. Deuxièmement, les différentes plantes, la cohabitation des ce qu'on appelle des plantes du potager avec des fleurs. D'habitude, on ne les mélange pas. Ici, on les a mis côte à côte ou on les a mélangées. Et ça nous a donné vraiment une certaine beauté et un certain épanouissement.
Et en fait, c'est un jardin qui est fait non seulement pour qu'il y ait des plantes, évidemment, pour qu'il y ait des légumes qu'on peut d'ailleurs après consommer une fois qu'ils ont été cuit dans la cuisine ayurvédique, mais aussi, si j'ai bien compris, puisque ça s'appelle un mandala, c'est-à-dire que c'est aussi un espace. Alors là, il n'est pas encore toutes les fleurs ne sont pas encore sorties, mais quand tout est bien sorti et toutes les couleurs sont là, c'est aussi un espace de contemplation, comme un mandala, puisque mandala, si je ne m'abuse, ça veut dire quelque chose qu'on doit contempler jusqu'à s'en imprégner.
Tout à fait. Très souvent, les mandalas sont dessinés sur une feuille de papier, sont dessinés ou sculptés sur la pierre ou quelque chose. Mais ça, c'est notre expérience. On a créé le mandala sur une assez grande superficie. On a créé le jardin. Et au lieu de simplement contempler en regardant, on pourrait se promener dans ce jardin. Et comme ça, on va capter cette énergie de mandala. On va méditer en marchant. Oh, peut-être qu'on regarde les fleurs, peut-être qu'on regarde des plantes, peut-être qu'on ne regarde rien. Mais cette énergie de la forme, cette énergie de mandala, c'est ça que nous absorbons quand on se promène dans le mandala.
Est-ce qu'on peut dire que le mandala est la forme visuelle de ce qu'on appelle par ailleurs le mantra, Kiran Vyas?
Très bien dit, très bien dit. Des mantras sont des vibrations sonores. Et ces vibrations sonores vont créer une certaine harmonie. Et cette harmonie est créée par cette forme, ces vibrations dans les mantras, ces syllabes. Et deuxièmement, les mantras ont été utilisés par les sages pendant des années et des années. Comme ça, ça a pris une deuxième énergie, c'est l'énergie des sages. Et troisièmement, les mantras ont une certaine sorte d'énergie des syllabes profondes. Et quelle que soit la langue, par exemple simplement le son nasal « m », ça va calmer l'esprit. Ou même dans les chants grégoriens, il y a le son « r » qui répète, « l » qui répète. Ou même dans les langues comme la langue perse, par exemple, comme la langue sanscrite, les anciennes langues, on va entendre certaines sonorités. Et mandala, c'est exactement la même chose. C'est une forme physique, mais c'est une sorte d'incitation d'un côté visuel et puis d'autre part vibratoire.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un de mantra devant ce jardin, qu'on vous entende et qu'on participe avec vous de cette...
Avec très grande joie. Le mantra des mantras, c'est le son OM, où il y a E, OU et M. E et OU, ça fait O, et M qui est nasal. Alors, les trois syllabes E, OU et M signifient les trois dimensions, la longueur, la largeur, la hauteur. Et quand ça se prononce, on va dire que ça va au-delà de ces trois dimensions. De même, il y a le passé, le présent et le futur. Et quand ça se prononce, on va aller au-delà du temps. C'est-à-dire, le mantra, c'est quelque chose qui va nous amener au-delà de temps et de l'espace. Alors, le premier son, c'est OM. OM Anandamayi Chaitanyamayi Satyamayi Parame. OM Anandamayi Chaitanyamayi Satyamayi Parame. OM Tat Savitur Varam Rupam Jyotihi Parasya Dhimahi Yannah Satyena Deepayet. OM Asatu Ma Sadgamaya Tamasu Ma Jyotirgamaya Mrityur Ma Amrutam Gamaya. OM Shanti Shanti Shanti. Asat, la non-vérité vers la vérité, puis de l'inconscience vers la conscience, le non-être vers le véritable être, de la mort vers une vie éternelle, la paix. Shanti, shanti, shanti.
Merci beaucoup, Kiran Vyas, pour ce moment en même temps vécu. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 12 parties, en fait, qui représentaient les vertus. Et ça, ça me touche tout particulièrement, parce qu'on a souvent une idée que la spiritualité de l'Inde, c'est une spiritualité je dirais, un peu déconnectée du réel, si je puis dire, planante, enfin, pour employer un terme de jeune. Et or, le fait qu'il y ait cette représentation symbolique des vertus semble indiquer qu'il n'y a évidemment pas toutes ces pratiques de la méditation, des mantras, qui sont évidemment très utiles pour attirer l'énergie, mais ne peuvent pas remplacer un véritable travail spirituel sur précisément, alors ce qu'on peut appeler les vertus ou les qualités, qu'importe, tout ce qui fait que l'humanité mériterait le nom d'humanité.
Très bien dit, oui, l'humanité doit mériter le nom. L'humanité doit travailler sur soi-même, l'humanité doit cultiver ses vertus d'humilité, de gratitude, de la sincérité. Je dirais la sincérité, c'est la clé même de toutes les portes. Si on est sincère et si on fait quelque chose avec tout cœur, avec toute tête et sans prétention, certainement, cela pourrait nous ouvrir les portes intérieures de différentes énergies. Mais aussi, dans la vie quotidienne, cela nous rendra la vie beaucoup plus facile.
Est-ce que, justement, dans... Alors, l'Ayurveda, c'est la médecine de l'Inde, mais je suppose qu'elle est intégrée dans la grande philosophie indienne en général, voire dans les religions de l'Inde qui s'unifient, en fait, dans une philosophie finalement unitive. Est-ce que cette dimension pratique a aussi un rôle thérapeutique? C'est-à-dire travailler sur soi, c'est aussi guérir du mal éventuellement qu'on peut retrouver en soi. Du mal dans le sens mal moral, bien sûr.
Oui, oui. Mais ça me fait sourire parce que le concept de mal ou le concept de péché n'existe pas dans la philosophie indienne. C'est une philosophie beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire, il y a bien sûr la théorie de karma où chaque action a une réaction, chaque geste a une sorte de contre-geste où chaque chose a des conséquences. Mais il n'y a pas cette idée ni de punition, ni de péché, ni de quelque chose de grave en soi. Par exemple, si vous êtes tombé, vous vous êtes fait mal, un peu mal au genou, un peu, mais ce n'est pas un péché de tomber, ni... avoir mal au genou, c'est quelque chose de catastrophique en soi. C'est-à-dire, c'est simplement une action et une réaction. C'est un geste et une sorte de contre-geste. Alors, en Inde, c'est vrai que la médecine ayurvédique, ou cette sorte de l'amour de la terre, ou cette sorte de connaissance ancestrale, on va appeler même la médecine de grand-mère, ça existe dans la vie quotidienne de tous les jours. Et tout le monde utilise, ou je dirais plutôt tout le monde utilisait, parce que l'Inde devient moderne et maintenant c'est très influencé par la médecine moderne, par tout ce qui est très moderne. Mais quand même, il y a une grande partie qui croit encore dans ses anciennes valeurs et il y a beaucoup qui restent encore fidèles à tout cela.
Et oui, non, ce que je voulais dire par mal, c'est en effet ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si on, je pense ici, on est dans une sorte de paradis naturel, vous travaillez des légumes bio, il y a quand même cette idée que, par exemple, que faire du mal à la terre, ça ne veut pas dire que c'est un péché, mais si on fait du mal à la terre, elle va nous le rendre en mal. Effectivement, j'entendais par là, ça, c'est éradiquer de soi tout ce qui peut amener à faire du mal, d'une certaine façon.
Oui, tout à fait. Cette idée de faire du mal à la terre, faire du mal à soi-même, certainement est contraire aux vraies valeurs humaines, aux vraies valeurs du progrès. Et c'est pourquoi l'être humain, petit à petit, doit cultiver cette sorte de maîtrise de soi par laquelle on pourrait progresser et aller vers une énergie positive, beaucoup plus positive. Par exemple, s'il y a deux enfants et s'il y en a un qui fait mal à l'autre et si l'autre est beaucoup plus fort, comme j'ai été enseignant, alors ça m'a toujours amusé. Alors, le garçon qui est plus fort, j'ai posé la question, qu'est-ce qui est plus difficile pour toi? De frapper l'autre ou garder tes mains dans ta poche et ne pas se fâcher. Alors il a dit, ne pas se fâcher, c'est beaucoup plus difficile que se fâcher et frapper l'autre. Alors après, j'ai posé la question, mais comme toi, tu es un garçon fort, qu'est-ce que tu aimerais faire? Quelque chose qui est difficile ou quelque chose qui est facile? Alors il a réfléchi, il a dit, quelque chose qui est difficile. Alors j'ai dit, bon, ça signifie que tu ne dois pas le frapper. Et c'est comme ça qu'on pourrait faire avec sa propre nature humaine. Parce que pour nous aussi, à chaque instant, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui sont faciles, il y a des situations où on pourrait vraiment se maîtriser, il y a des moments où on pourrait se laisser aller.
Et ce serait pour vous presque la définition de la sagesse. On pourrait d'ailleurs terminer l'émission là-dessus, puisque elle touche malheureusement déjà à sa fin. Est-ce que ce serait ça, peut-être, une définition du bien-vivre? Du bien vivre pour soi-même et pour les autres, ce qui n'est autre que la sagesse, bien sûr, Kiran Vyas.
Oui, la sagesse, c'est un grand mot. Moi, personnellement, je dirais, j'ai pas envie d'être trop sage. j'ai envie d'être un peu espiègle. J'ai envie de, comment dire, me jouir et réjouir de la vie. Et où il y a un petit peu de non-sens va jouer un rôle aussi important. Mais c'est vrai que la vraie sagesse, c'est de vivre dans cette sorte d'harmonie avec une certaine connaissance de soi, avec l'amour de la terre, un peu devenir comme les oiseaux qui chantent, un peu prendre l'exemple du ciel qui produit dans les mauvais temps comme les nuages et la pluie, avec un petit rayon de soleil. Qu'est-ce que fait le ciel? Produit un arc-en-ciel. C'est-à-dire, si chacun d'entre nous, si on est capable de changer les nuages noirs de notre vie dans des arcs-en-ciel, certainement, on est sur la route ou sur le chemin de la sagesse.
C'est sur cette très belle image, Kiran Vyas, que nous allons terminer cette émission. Je vous remercie vraiment infiniment de nous avoir reçus ici, d'avoir partagé avec nous votre sagesse, vos arcs-en-ciel et cet espace de paix et d'harmonie qui règne ici. Je rappelle à nos auditeurs que auront lieu les 9, 10, 11 et 12 juin ici à Tapovan, à Sasseto du Mot-Conduit, les journées planétaires, ou plutôt les jardins planétaires au cours desquels vous célébrerez le ciel, la terre, la nature, les plantes, les arbres, et j'espère qu'il fera aussi beau qu'il le fait aujourd'hui. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Leïli Anvar. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bonne soirée à tous. Peace.